c'est ce désir du monde. C'est la rudesse qui dirige. C'est la ligne droite et la route poudreuse dans l'aurore malléable qui attire. Et la poussière se fait légère et douce aux talons nus qui s'y enfoncent avec volupté. Les horizons ne sont pas des mythes. Ils sont là pour être traversés, vaincus, livrés. Tous les secrets des montagnes, toute la longueur des rivières, toute la force mystique de l'océan indomptable. Et le désert qui noie mieux que l'onde sont pour nous.
Mireille Havet, journal 1927-1928. Page choisie par Béatrice Leca. Avec Louise Pastot. Deuxième épisode, la solitude, l'asphyxie. Adieu Paris et son tohu-bohu, adieu amour passé et aisance matérielle. En ce printemps 1928, Mireille Havet est à Nice, goûtant chez sa sœur la douceur des beaux jours. Malheureusement, le soleil ne peut consoler toutes les peines, ni chasser les démons qui la tourmentent. La morphine, cette meilleure ennemie qui a tout détruit, rythme toujours sa vie, comme le souvenir de Robbie, dernière maîtresse à l'avoir trahi. Entre de brefs instants d'optimisme et de longs moments d'abattement, la lente descente aux enfers.
Jeudi 24 mai 1928. Nice. 2h du matin. Toute l'histoire de ce beau cahier, que j'ai acheté 100 francs il y a un mois, un jour de grandeur. Tiens, le premier jour où, continuant mes folies, j'ai envoyé des fleurs à Germaine Barnatan. Et qui, depuis ce jour, vierge et tentant sur ma table, ne sert pas. Et justement que je ne voulais pas faire ce que je fais cette nuit, c'est-à-dire recommencer à prendre mes notes au crayon, écrire au crayon et n'importe comment dessus. Il était trop beau pour cela. Et subitement, comme pour tout, j'ai cédé. J'ai repris une fois de plus une mauvaise habitude de laisser aller et de paresse de plus. Cette fois, ce n'est pas très grave. Si, c'est grave. Tout est très grave au point d'abandon de moi-même et de hasard où j'en suis. La preuve en est, c'est que ma vie, détruite indiscutablement par les drogues, et maintenant les plus terribles, qui la rongent, avant tout autre malheur ou excuse, comme le vitriol, les chairs humaines et les métaux, ma vie qui, malgré tout, avait une certaine ossature, un certain et apparent équilibre, et qui était enfin quelque chose, une vie humaine, comme ce cahier était un beau cahier neuf et propre avant que j'y touche à l'instant, n'est plus rien maintenant. Plus rien. Il faut bien se l'avouer, s'en rendre compte. J'ai 30 ans moins un an et ma vie n'existe plus. Je n'ai plus de vie. Seul, je le répète, le hasard le plus bas et médiocre, le laisser-aller au n'importe quoi quotidien l'amène. Je n'ai plus d'amis ou presque, plus d'amour, à cela c'est l'évidence absolue, plus d'argent, plus de domestiques payés et plus de maisons. Premièrement parce que non plus pas payés, ni loyer, impôts ou assurance, gaz, téléphone, etc. ne le sont plus depuis 2 mois. Et deuxièmement, que les travaux pour en construire une autre devant elle et démolir notre vieille maison sont commencés, et maintenant iront régulièrement jusqu'à sa destruction définitive qui m'empêchera même d'y habiter cet hiver. Je n'ai donc vraiment plus rien. Je ne tiens plus à rien, et les êtres que j'aimais le plus m'ont habitué à tout perdre, et à les voir du jour au lendemain disparaître sans recours. Je suis aussi et même plus pauvre qu'aucun mendiant, et solitaire, abandonné vagabond à travers le monde, sans refuge pour lui. Je suis comme un enfant qui vient de naître, me suis-je amusée à écrire à Rennes ce soir. Mais sans parents et ayant plus d'un jour. Il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an encore. Bien qu'allant en diminuant avec une progression surprenante et régulière comme un rouleau compresseur, j'avais de l'argent en versement assez régulier, donc une vie matérielle basée dessus et réglée par lui. Une femme de chambre exactement payée et docile et dévouée à cause de ses gages fixes. Une maison qui se meublait et se perfectionnait, du reste, mais en plus, toujours, surtout à cette époque-ci, pleine de fleurs, et les plus belles et opulentes de Paris. J'avais des costumes neufs, et un tailleur aussi, le premier de Paris, où je pouvais en commander. Un bon chemisier empressé, du linge, un coiffeur, une manucure attitrée qui avait son jour par semaine, des cigarettes, et toujours au moins quelques centaines de francs sur moi dans mon portefeuille pour parer à la vie quotidienne. Enfin, la longue et souple automobile pour aller dîner à la campagne, les soirs d'été, dans les hôtelleries de la Seine ou de la Marne, et même plus loin de la Touraine où j'allais avoir ma belle maison. Et quelle maison ! Celle de mes rêves depuis 6 années que je la regardais avec tant d'amour, sans songer que je puisse y entrer jamais, même en passant une maison au bord de la Loire dans mon pays préféré de France. Donc pour nous y mener, l'automobile de l'amie parfaite et fidèle qui me donnait tout ce bonheur et pour laquelle j'écrivais et voulais vivre, que j'aimais. J'avais du talent encore, et de l'ambition. Je n'avais pas été malade et je croyais à l'amour. La vie s'ouvrait, centrale comme un livre à son milieu. Et j'y entrais, appuyant mon présent et mon avenir sur des bases qui paraissaient incontestables et dignes de foi. J'avais la jeunesse enfin, et confiance dans les autres et en moi. Mais il y avait, dans ce trop beau livre ouvert, ce trop beau rêve, une toute petite fêlure. Quelque chose comme une épine qui portait malgré tout avec elle sa blessure et son ombre, imperceptible comme la blessure. 3 fois rien vraiment, pensions-nous. Et cette ombre, cette tache, cette fêlure, invisible et secrète, ce rien, c'était tout. Le monstre, le minotaure qui allait tout détruire, broyer et me broyer avec, sur ses molaires énormes, notre fragile et trop humain bonheur. C'était la morphine. Progressivement, je le répète, comme un rouleau compresseur qui avance, ne connaît aucun obstacle et fait lentement son travail d'heure en heure. La morphine a tout détruit, tout sapé, tout anéanti. Et j'ai tout perdu. Mon ami, son argent, nos maisons, ma confiance, ma santé, mes années, mon talent, mon courage, ma fraîcheur, l'amour, même l'amitié. La poésie qui s'est retirée de moi comme la mer abandonne un rocher trop ingrat et qui, désormais, déchiqueté, rude, délaissé, presque effrayant dans son isolement dès lors éternel, s'élèvera seule des flots, sans oiseaux et sans graines, sans terre surtout, pour qui germent les graines apportées des oiseaux sans rien à l'infini et dans l'éternité que le ciel et la mer, tous deux aussi distants et aussi éloignés de lui. J'ai tout perdu. Ma vie, mon instinct de vivre, ma répugnance du mal, mon goût de me soigner. La morphine, cette écharde invisible du début, est devenue le poignard, la hallebarde qui, à travers mon corps, a transpercé mon cœur et m'a tué. m'a cloué au sol le plus bas, à la terre boueuse où l'on m'enterrera. Enfin, la morphine, et sa sœur la cocaïne, et l'héroïne son aînée, cette fois plus dangereuse et toxique qu'aucun des poisons, ont peu à peu tout remplacé et maintenant me reste seule. Comment voulez-vous que, n'ayant plus rien, je n'ai pas fait le pacte du diable, de l'âme vendue, avec mes pires ennemis? C'est pour les acheter que je donne mes derniers billets, que j'emprunte, mendie à n'importe qui. Je vendrai sans doute pour cette unique et dominante dépense qui me détruit, comme le vitriol dissout le squelette même de l'homme et ses bagues, car même tous les métaux sont détruits par lui et son acide inguérissable et brûlant. C'est avec elle dès lors que je passe toutes mes nuits. Elles sont mes amours, elles sont mes ennemis, elles sont mes compagnes et ma consolation atroce, elles sont ma vie et elles sont ma mort, parce que j'ai tout perdu par elles de mes biens humains et terrestres. Elles sont ma mort parce que chaque jour, dans l'isolement secret triplement fortifié qu'elles m'ont fait, cellule bâtie à ma mesure comme une bière et où je manque plus d'une fois d'air et de jour, car ma vue baisse aussi, se détruit d'elle-même. Je perds de plus en plus mon âme qui seule me reste encore. Mon âme qu'elles finiront bien, dans un affreux scandale, un ignoble accident, par séparer de mon corps, par emporter avec elle en enfer, dans la mort. Perdu. Perdu. J'ai tout perdu et j'avais tout au monde. J'ai tout eu. Je ne possède plus rien que mes paquets de cocaïne, d'héroïne, mes pauvres paquets honteux, mortels. Acheté de préférence à toute nourriture ou vêtements, certes, acheté avec mon dernier argent. Je ne possède plus rien et ce sont mes paquets mêmes qui me possèdent. L'amour est loin, la vie aussi. Héroïne, cocaïne, la nuit s'avance. Mes seules passions, mes confidentes, mes complices dont je suis le prisonnier anéanti. Allons, je vais à vous encore une fois, avant de dormir, mes ennemis que je hais car je connais ma mort. Elle est en vous. Heures du matin, vendredi 25 mai 1928, Nice, sur la terrasse. Avec les matins lumineux, les grands soleils, l'écho de la ville et de ses travaux adoucis par la hauteur de cette terrasse et qui n'est plus ici qu'une douce rumeur, s'efface un peu, incomparablement plus qu'à Paris en tout cas, les cauchemars et la fébrilité de la nuit. Moi qui ai horreur du jour et de tout ce qu'il apporte en général, du jour qui ramène l'argent entre les hommes et où l'on n'est plus à l'abri de rien, je le vois revenir ici sans déplaisir et, quand on m'éveille, je suis plutôt moins triste souvent que quand je me suis endormie. Le beau temps est tout de même un rude dispensateur d'énergie et consolateur des peines. La mer, sous le ciel clair qui charrie encore quelques nuages éventés, et bleu assez pâle. Le temps est pur, beaucoup plus pur depuis 2 jours, et je suis soudain tentée d'oublier Paris et ses charges obsédantes, la trace chez moi de ses horribles souvenirs, et de rester ici longtemps, longtemps, baignée, apaisée par le bleu et or de ce pays. Beau comme un rêve qui console, pris magiquement entre le ciel et la mer. 3 heures, même jour. Le jour blanc d'un soleil voilé sur la pergola, la colonne blanche encadrée dans ma fenêtre, et les traversées chapiteaux de bois ocre entre les persiennes à moitié ouvertes de la porte-fenêtre. C'est une journée de vacances. Les seuls étés de France se sont réfugiés ici. Maintenant, j'écris, étendu sur mon étroit mais doux divan qui fut mon lit bien longtemps, toute ma jeunesse même, autrefois, chez maman, et que le souvenir d'aucune femme, d'aucun amour trompé et bafoué au moins, n'empoisonne. Tout est calme. Ce sont mes premières vacances à moi depuis longtemps. Le cœur desséché, les larmes taries, équivalent à un cœur libre et pas de larmes du tout. Je suis tranquille et seule, avec la seule famille qui me reste au monde, ma sœur et ses enfants, où je me suis réfugiée. Le temps passe. Bientôt 2 mois depuis mon arrivée, d'abord heureuse et pleine d'espérance, et puis tragique, de par la trahison apprise et subie ici. Quelle souffrance, quelle agonie. N'en parlons plus, puisque j'ai vécu. Je vis. J'ai une chambre calme et agréable, en plein ciel, en plein midi, qui a vu sur la ville, les montagnes et la mer, la nuit dans les bois proches et les parcs abandonnés de cette partie de Nice qui sera malheureusement bientôt aussi construite et massacrée. Les rossignols et les grenouilles chantent, et les lucioles, les premières de l'été, s'allument devant vous comme des étoiles volantes et à votre portée. J'ai un divan confortable où m'étendre sans souvenir d'aucune, je le répète, que celle de ma jeunesse. Imaginaire, imaginé. Une table où mon travail s'appuiera bien un jour, où les lettres auxquelles je ne veux plus répondre reposent comme des mortes ou de vieux papiers. Je suis en paix. C'est un entr'acte, une trêve de quelques jours et que je prolongerai le plus longtemps possible. Paris s'éloigne, son froid, sa rumeur du jour exaspérante, ses téléphones agressifs ou décevants, ses réclamations, ses incidents sans bonheur, ses faux amis d'une heure, ses femmes menteuses d'un jour ou d'un an, son odeur d'essence et de foule, son ciel bas chargé particulièrement de pluie, même de glace ce printemps, et où la lumière sans cesse se voile et diminue. Tout cela disparaît, s'estompe enfin derrière mes épaules. Je n'ai plus rien sans doute, mais j'ai ma liberté. J'ai tourné le dos à tout et à tous, et l'on m'oublie comme je veux oublier. J'ai abandonné ma maison où j'ai été trop malheureuse et trompée, où ne reste plus que des vêtements que je ne mets plus, des livres que je ne lis plus depuis longtemps. Ma souffrance figée comme l'ombre des volets clos entre les murs de ma chambre, des souvenirs morts et des empreintes 1000 fois effacées par la poussière sur le divan, dans les coussins où ni elle ni moi ne reviendrons plus, et plus jamais, en tout cas, nous enlacer, dormir ensemble et nous étreindre. J'ai tout laissé, sans le savoir, il y a 2 mois. Mais c'est maintenant que je le laisse vraiment, car je le sais. Adieu cette vie-là qui est morte comme mon amour, et celle aussi que je fus durant toute cette année perdue. Vais-je revivre? Vais-je renaître ici? Je ne le sais pas. J'ignore tout de l'avenir, mais aujourd'hui, tout de suite, dans la journée calme, je veux me reposer. Fermer mon cœur que l'on m'a brisé, qui est cousu et traversé de cicatrices comme le visage labouré et hideux de certains grands blessés de la face. Être sans mémoire et dormir. Nice, samedi 9 juin 1928, 8h30 du soir. La mort s'amuse souvent avec moi. La mort s'amuse tout le temps avec moi. Ma vie est un enfer. Je le répète, je vis en enfer. Et depuis bientôt 2 ans cet été, et que Rennes, puis Marcel m'auront quitté, je n'aurai pas cessé. Mais vivrai-je moi-même jusqu'en été? À cet été anniversaire de celui avec Robbie, perdu comme les autres depuis 2 mois, et pour toujours sans doute aussi. L'année dernière, cet été, auprès de mon nouvel amour encore bien fragile puisque naissant, je tombais malade et aurais pu être sauvée, évadée de tout pour toujours. Non seulement j'y ai songé le jour de ma guérison en octobre, mais j'y ai cru. J'y ai cru comme à tant de choses, comme à toutes celles qui sont venues à moi et m'ont serré dans leurs bras en prononçant les paroles les plus douces et les plus merveilleuses que l'on puisse entendre sur la terre. Qu'une femme puisse dire à son amant, écrivais-je autrefois, comme à l'amour qui me tue. Robbie. Robbie. Je m'étais juré de ne pas écrire ton nom, ni jamais reparler de toi sur ce nouveau cahier acheté ici après ton abandon. Mais à quoi bon cette lutte impossible ? J'ai tout perdu, vous dis-je. Il n'y a plus rien à faire. Aucun plus que moi-même n'aura aimé et cru et souffert. Je le jure. Mon Dieu, pourquoi ne permettez-vous pas que je meure? Et voulez-vous cette lutte insensée, disproportionnée déjà, et où je suis par avance battue. 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 L'échec perpétuel, la descente lente, progressive aux enfers. Voici ma nouvelle destinée. Celle qui est écrite devant moi si je dois vivre, si j'ai le courage de ne pas me tuer, ou plutôt pas le courage de me tuer. J'ai marché dans les rues sans voir ce soir. Et maintenant la mer est pâle et se confond au ciel. Et maintenant j'ai compris la sottise, la naïveté de lutter, de ruser avec moi-même et de ne pas vouloir voir ce qui crève les yeux et me fait sangloter de nouveau. Enfin, Robbie, je pleure. Je peux repleurer. Et cela vaut mieux que la joie fausse, affectée et artificielle de ces dernières semaines-ci. Je suis trop malheureuse et il vaut mieux l'avouer. Je ne peux pas vivre et il vaut mieux le comprendre que de continuer à traîner ainsi. Mourir, mon Dieu. Pourquoi ne me le permettez-vous? Pourquoi ne m'ouvrez-vous de vous-même l'issue? Pourquoi exigez-vous? Faut-il qu'en mourant je vous perde aussi et par-dessus tout et tous? Comme j'ai perdu en vivant celle qui vivait près de moi, avec moi, et que j'aimais plus que tout.
C'était Mireille Havet, journal 1927-1928. Page choisie par Béatrice Loca. Deuxième épisode. Avec Louise Pastot. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Déborah Dagobert. Assistant, Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidoroff. Le journal de Mireille Havet est publié aux éditions Claire Poland.